Seigneur, qu'il y a du bonheur, de la joie à marcher avec toi, à savoir que tu es avec nous, que tu nous suis, que tu nous précèdes, que tu nous entoures. Seigneur, je prie que dans ces moments où ta parole va être annoncée, tu nous assistes, tu m'assistes, tu viennes à mon secours pour prêcher avec droiture et fidélité. Je prie que tu bénisses aussi nos sœurs qui enseignent les enfants ce matin, que tu parles au travers d'elles. Je prie, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à tous à recevoir ta parole, à la vivre, à la mettre en pratique, que tu transformes nos vies pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande. Amen. On va continuer et terminer notre série de prédications sur la deuxième épître aux Corinthiens. Cette lettre que l'apôtre Paul a écrite pour expliquer ses motivations, pour défendre aussi son ministère et la crédibilité de l'évangile qu'il annonce. Alors ce matin, on va lire un passage un peu plus long que ce qu'on a pu lire les fois précédentes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles donc dans 2 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 13. Donc 2 Corinthiens 12, verset 19, jusqu'à la fin du chapitre 13. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors dans ce passage qu'on ne va pas étudier en détail, je vous propose de voir trois choses. D'abord, quelques mots du contexte pour comprendre pourquoi ce qu'on vient de lire a été écrit, dans quel but. Et de là, je voudrais montrer qu'il y a une urgence à vivre comme le Seigneur nous le demande. Une urgence pour les chrétiens, pour nous qui connaissons le Seigneur, mais aussi une urgence pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont pas mis leur vie en règle avec lui. Et troisièmement, je voudrais voir quelques recommandations que le Seigneur nous fait individuellement et collectivement aussi en tant qu'Église. Alors d'abord, quelques mots d'explication pour essayer de comprendre la pensée de Paul. Si vous avez entendu les précédentes prédications sur cette épître, vous avez vu que presque à chaque fois, j'ai donné quelques mots du contexte pour nous aider à suivre cette pensée, comprendre pourquoi ce qu'on a lu a été écrit. Quelle est la pensée de l'apôtre Paul? Quelle est la pensée de Dieu? L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. C'est là qu'il a prêché l'évangile, que des personnes se sont tournées vers Christ. Il est resté assez longtemps dans cette ville. Vraisemblablement, il y a d'autres disciples qui ont dû s'ajouter à l'église qu'il avait fondée. Et puis l'apôtre Paul a continué ses voyages missionnaires. Il est allé soutenir les autres jeunes églises qu'il avait pu fonder, ou celles qui avaient été fondées par d'autres. Il est allé les encourager. Et il en a fondé d'autres aussi. Et puis il est resté en contact avec les Corinthiens. Il leur a écrit, il leur a donné des nouvelles. On a vu que dans l'église de Corinthe, il y en avait plusieurs qui se posaient des questions au sujet de cet homme, qui se demandaient pourquoi il rencontrait autant d'épreuves s'il était envoyé par Dieu, qui se demandaient pourquoi il devait changer ses plans s'il était conduit par Dieu, pourquoi il vivait dans la pauvreté s'il était soutenu par Dieu. Et ces questions nous montraient que les Corinthiens étaient davantage attachés aux apparences qu'à ce qui se passe dans le cœur, qu'aux motivations réelles. On a même accusé l'apôtre Paul, c'est ce qu'on avait vu une des dernières fois, d'avoir des motivations vénales, de rechercher de l'argent, les biens des Corinthiens. Il leur a dit, c'est vous que je recherche, votre cœur tout entier. Et toute cette lettre a été écrite pour ça, parce que l'apôtre Paul, en tant qu'envoyé de Dieu, explique ses motivations. Il manifeste dans sa vie le caractère du Seigneur Jésus et il dépend de lui. Et c'est vrai qu'il est faible, mais Dieu est puissant et il agit au travers de lui. En me remémorant ces choses, il y a un verset qui m'est venu, si vous voulez regarder, Galates 2.20, à moins que vous le connaissiez déjà par cœur. Et Galates 2.20, c'est quelque chose que l'apôtre Paul vivait d'une manière particulièrement intense, particulièrement vraie. Ce verset où il dit, c'est lui-même qui l'écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il vivait une vie de crucifié, il était mort à ses propres besoins, mort à ses propres projets, à ses propres ambitions. Il ne cherchait même pas son épanouissement personnel. C'est tellement à la mode aujourd'hui de chercher son épanouissement personnel. Mais la croix, c'est pas rechercher son épanouissement. Simplement pour que la vie de Jésus-Christ soit manifestée en lui. Ça lui importait pas que on voit en lui quelqu'un d'admirable. Ce qui lui importait, c'est que Jésus-Christ soit connu, que Jésus-Christ soit glorifié. Et tout ça, c'était incompréhensible pour les Corinthiens parce qu'ils étaient vraiment imprégné de la pensée du monde. La pensée du monde qui dit justement qu'il faut s'épanouir, qu'il faut être reconnu, qu'il faut être quelqu'un, qu'il faut en imposer. Pour eux, les apparences comptaient vraiment beaucoup. Plus que le cœur, plus que les motivations. Et il y a ce verset qui nous dit qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Prenons garde pour nous-mêmes à ne pas aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, à ne pas rechercher l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu. On a lu ce matin qu'il y avait des querelles, des jalousies, des médisances, des cabales, des calomnies à Corinthe. Et quelque part, ça n'est pas étonnant quand le plus important, ce sont les apparences. La relation que l'on a au péché, le péché qui se trouve dans le cœur, passe loin derrière. Ils étaient tellement occupés à satisfaire leurs ambitions personnelles qu'ils n'en avaient même plus conscience quelque part que ces péchés-là se trouvaient au sein même de l'Église, au sein de leur rassemblement. Ça ne les gênait plus. Au verset 19, on a lu, verset 19 du chapitre 12, « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. » L'apôtre Paul ne cherchait pas à se justifier. Il savait pourquoi il avait agi. Il n'avait pas besoin de se défendre ou de défendre sa réputation en tant que tel. Mais il écrivait pour que les Corinthiens comprennent que c'est ça la vie chrétienne, que cette vie-là est possible, une vie de crucifié. Il dit « C'est devant Dieu, en Christ que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. » Je m'arrête là pour le contexte, et je voudrais relever autre chose qu'on a lu ce matin. On a vu que l'apôtre Paul s'apprête à aller leur rendre une autre visite. Mais dans son cœur, il y a une crainte, il y a des craintes même. Il a peur, en se rendant à Corinthe pour visiter l'assemblée, de trouver une église où il y aura du désordre, une église où il y aura du péché. Il dit « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. » Je voudrais qu'on réfléchisse un instant. L'apôtre Paul promet aux Corinthiens une visite. Il l'a promis, cette visite, en espérant qu'ils auront changé d'attitude, qu'ils se seront repentis, qu'ils auront fait demi-tour et qu'ils auront condamné leur propre péché pour embrasser la vie que Dieu leur demande d'avoir. Il espère qu'il va trouver des frères et sœurs qui vont vivre paisiblement entre eux, dans l'amour. Des frères et sœurs qui vont s'édifier les uns les autres et qui vont travailler ensemble aussi à l'œuvre du Seigneur. Il y a un parallèle à faire avec nos propres vies, parce que nous n'attendons pas la visite de l'apôtre Paul, mais nous attendons une autre visite, et plus qu'une visite, puisque nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Il a promis de revenir. Est-ce qu'il va nous trouver tel qu'il le voudrait? Ou est-ce qu'il a maintenant de quoi nous dire « Je crains à mon arrivée de ne pas vous trouver tel que je voudrais. » Si le Seigneur arrivait à cet instant, il trouverait grosso modo 180 personnes assises à écouter un prédicateur ou un moniteur. Mais encore, qu'est-ce qu'il trouverait? Est-ce qu'il trouverait en nous des querelles, de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la médisance? Est-ce qu'il y a des animosités, c'est-à-dire des relations qui sont dégradées, des paroles dures? Est-ce qu'il y a des cabales, c'est-à-dire des conspirations, des clans, des ambitions personnelles? Est-ce qu'il y a du mensonge? Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce qu'il y a du dérèglement? Le Seigneur Jésus va revenir. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je demeure en lui? Regardez dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. La parole de Dieu dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Ce verset s'adresse à des chrétiens, à des enfants de Dieu, à des personnes qui se sont converties à Jésus-Christ, qui sont nées de nouveau, à des personnes qui sont aussi confrontées au péché, jour après jour, qui luttent, qui expérimentent des tentations dans leur vie. Et il nous est dit que si nous ne demeurons pas en Christ, autrement dit, si on ne marche pas avec lui de manière continue, si on ne marche pas avec lui de tout notre cœur, et si on néglige aussi de combattre le péché, de lutter quand la tentation se présente, si on préfère marcher d'une manière charnelle plutôt que par l'Esprit de Dieu, bien, on aura honte quand Christ descendra du ciel pour nous chercher. Il n'est pas dit qu'il en prendra certains avec lui, qu'il en laissera d'autres de côté. Non, il prendra tous les chrétiens, parce qu'il est écrit que nous serons tous ensemble enlevés avec lui. Et si le Seigneur venait à laisser un de ses rachetés derrière lui, cette parole ne serait pas vraie. Mais quand ce moment va arriver, et la Bible nous dit que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit, d'une manière imprévisible, quand ce jour arrivera, est-ce que nous serons pris en flagrant délit de péché? Est-ce que nous serons pris en flagrant délit d'une marche dans la chair pour satisfaire nos propres besoins, nos propres ambitions, nos propres désirs, plutôt que pour servir Dieu? Est-ce que nous serons proches ou éloigné de lui à ce moment-là, dans nos cœurs, dans notre marche avec lui au quotidien? Et on voit que l'apôtre Paul se désolait, vraiment il était triste, à pleurer à l'idée que des chrétiens puissent marcher dans le péché, ne pas se repentir de leur péché et l'admettre dans leur vie. Je crains que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Vous savez, il arrive qu'un chrétien pêche. Soyons honnêtes, il arrive qu'un chrétien pêche. Mais le Seigneur a des trésors de grâce, de miséricorde, de pardon, en abondance, pour relever le chrétien qui pêche. Peut-être que vous avez abandonné la lutte contre le péché, parce que vous avez chuté et chuté et chuté encore. Mais là encore, le Seigneur veut vous relever. Il ne veut pas vous laisser dans cet état. J'aime beaucoup le passage de Jean 13 où on voit le Seigneur qui lave les pieds de ses disciples. Il lave des pieds crasseux, des pieds qui ont été souillés le long du chemin, comme ça nous arrive aussi. Et c'est ça, croire à la bonne nouvelle. Même si on a quelque part fait déclarer forfait, non, le Seigneur veut nous relever. Croyez à la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit « Je crains à mon arrivée de ne pas vous trouver tel que je le voudrais. » Et il ajoute « Et je crains d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Parce qu'en arrivant à Corinthe, il avait peur de devoir faire de la discipline, de devoir sévir, de montrer à ceux qui ne s'étaient pas repentis que le Seigneur n'est pas prêt à accepter le péché au sein de son Église. N'accepte pas que son épouse aille se vautrer dans la boue. N'accepte pas non plus que son épouse aille flirter avec le diable. Et on voit que pour préserver la pureté de son épouse, le Seigneur est prêt à se montrer sous un jour sévère. Bien sûr qu'on aime à se rappeler que le Seigneur est doux, qu'il est bon, qu'il est plein de miséricorde, et nous n'avons pas à l'oublier. Mais n'oublions pas aussi, nous qui connaissons le Seigneur, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et dans cet avertissement, où l'apôtre Paul avertit qu'il va venir visiter l'église de Corinthe et qu'il n'usera d'aucun ménagement, en méditant sur ces choses, je vois quelque chose qui s'adresse à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. en particulier à ceux qui fréquentent l'Église, qui entendent et entendent encore la prédication de la parole de Dieu, qui entendent l'Évangile, mais qui ne se sont pas décidés à marcher avec le Seigneur. À ceux qui ne montrent pas les signes clairs d'une vraie conversion, d'une véritable repentance et d'une marche avec Jésus-Christ. Alors j'ai dit il y a un instant que le Seigneur allait revenir. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas clairement donné votre vie à Jésus-Christ, quand le Seigneur reviendra, vous n'aurez pas affaire à un sauveur, vous aurez affaire à un juge. Au jour du Seigneur, il y aura des personnes qui ne trouveront pas en lui un sauveur, mais un juge, et qui auront affaire à la colère de l'agneau. C'est spécial comme expression, la colère de l'agneau. On imagine plus un lion se mettre en colère. Mais là, il est question de la colère de l'agneau. N'imaginons pas une petite colère de rien du tout, parce que c'est la colère de celui qui a donné sa vie, qui a intercédé, qui est allé jusqu'à supplier d'être réconcilié avec lui, et que l'on a refusé, que l'on a rejeté, qu'on a bafoué. Je sais que c'est un message qui est désagréable à entendre, mais il est vrai. Et il s'adresse à ceux qui tardent à se mettre en règle avec celui qui va juger les vivants et les morts. Ne vous trompez pas vous-même si vous espérez voir apparaître un sauveur, mais que vous ne vous êtes pas mis en règle avec Dieu, si vous ne lui avez pas donné votre vie, si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ avant sa venue. Est-ce que vous pensez avoir tout le temps ? Est-ce que vous pensez pouvoir vous convertir à la dernière minute pour ne pas avoir à renoncer à ce qui vous plaît maintenant ? Et non, Dieu vous ordonne de vous repentir. Est-ce que vous êtes de ceux qui se moquent de ces choses ? Est-ce que vous pensez que Dieu est trop bon pour juger et pour envoyer en enfer ? Il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais que la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si vous êtes encore là ce matin et que Dieu ne vous a pas jugé, c'est parce que Dieu vous donne du temps pour vous repentir, pour venir à lui. Dans la parole, il est écrit, dans le texte qu'on a lu, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » C'est un texte difficile. Mais Dieu nous invite à faire un test, à nous mettre nous-mêmes à l'épreuve. Est-ce que vous êtes dans la foi ? Est-ce que vous pouvez dire avec assurance, « Christ vit en moi, j'ai reçu le Seigneur, il m'a sauvé. » Est-ce que vous pouvez dire que Jésus-Christ est en vous ? Pas parce que vous le sentez, pas parce que vous pensez que oui, ça doit peut-être être le cas, mais parce que vous croyez à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez foi en la parole de Dieu ? Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas avoir foi, ce n'est pas un ressenti, c'est pas une impression. Et il ne s'agit pas non plus de se livrer à une introspection maladive pour essayer de discerner dans notre cœur si peut-être il s'y trouve quelque chose qui m'indiquerait que Christ est en moi. Non. Ce n'est pas, pas une petite émotion, un frisson ou un je ne sais quoi qui va vous dire que Christ est en vous? Est-ce que vous croyez à ce qui est écrit dans la parole? Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Est-ce que vous croyez à cette parole au point de la mettre en pratique? Est-ce que vous pouvez dire que Christ est votre sauveur? Est-ce que vous pouvez dire Jésus-Christ est mon sauveur? Notre passage nous dit que celui qui n'est pas en Christ est un réprouvé. On utilise ce mot pour parler des métaux qu'on soumet à un test pour voir s'ils sont vrais. Vous avez peut-être déjà vu des gens croquer dans une pièce d'or. Ils font pas ça pour se faire mal aux dents, mais l'or est un métal suffisamment tendre. On arrive à voir si c'est vraiment de l'or en donnant un petit coup de canine dedans. Si le métal ne passe pas le test, c'est du faux. C'est une contrefaçon. En lisant ce texte, je me dis qu'il devait y avoir au sein de l'assemblée de Corinthe des personnes qui s'imaginaient être chrétiennes, qui s'imaginaient avoir reçu la vie, mais qui se trompaient elles-mêmes. Si vous êtes dans ce cas, ne vous trompez pas vous-même. Venez à Jésus-Christ. Il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je voudrais passer à la fin de notre texte, au chapitre 13, les versets 11 et 12. Il est écrit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. » Ce sont là des recommandations qui s'adressent à nous en tant que chrétiens. Ce qu'on vient de voir juste avant, ce sont des déclarations sévères. Des choses dures, dures à dire, dures à entendre. Paul s'apprête à venir mettre de l'ordre avec la puissance du Seigneur. Mais en lisant ces mots, je me dis qu'il ne veut pas laisser les disciples sur une mauvaise note, les laisser dans une attente craintive de sa venue, et il leur donne cette exhortation comme pour une consigne, pour se dépouiller des mauvais comportements qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir et pour se revêtir des comportements qui plaisent à Dieu. Alors je ne vais pas détailler chacune des propositions, des expressions qui se trouvent dans ce texte, mais relever quelque chose, quelques petites choses. D'abord, on voit que c'est une recommandation qui s'adresse à des frères et sœurs. Au reste, frères, ce sont des liens familiaux qu'on a dans le Seigneur. On est unis en Christ par des liens de famille, plus forts encore que ceux que les liens du sang. C'est, dans une certaine mesure, on peut choisir nos amis. On ne choisit pas notre famille. Et ça s'applique très bien aux enfants de Dieu. Vous n'avez pas choisi d'être le frère ou la sœur de la personne qui est assise à votre gauche, à votre droite, devant ou derrière vous. On ne se choisit pas. Par contre, on a tous le même Père qui est dans les cieux, qui nous unit. Tout à l'heure, on a parlé du jour où on sera tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ce passage ajoute qu'on sera pour toujours avec le Seigneur. Ce que ce passage ne dit pas, mais qui est implicite, c'est qu'on sera aussi pour toujours tous ensemble. Et Il y a quelque chose de désolant à voir des frères et sœurs ne pas s'entendre. On va passer l'éternité ensemble. Alors, c'est sûr que le point de notre attention, ce sera le Seigneur. Et on pourra le glorifier et le louer. Mais apprêtons-nous à passer l'éternité ensemble. Le Seigneur nous a donné ce lien de famille qui ne peut pas être brisé. Et il a déversé son amour dans notre cœur pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres, de cet amour familial, plus que familial même. Et vous savez, quand on sera ensemble dans la présence du Seigneur, on sera tous débarrassés de la présence du péché. Tous. C'est une bonne raison, je trouve, pour redoubler d'amour envers mon frère ou ma sœur, parce que lui aussi, un jour, va être totalement débarrassé de la présence du péché. Une autre chose que je voudrais relever, c'est que plusieurs ne peuvent pas vivre les différentes exhortations qui sont adressées ici parce qu'ils ne vivent pas en église. Ce sont des recommandations qui sont adressées à une église pour des personnes qui vivent en église. Alors il ne s'agit pas de mettre des lits de camp et de dormir tous ensemble ici, de préparer notre petit déjeuner tous ensemble ici, de passer 24 heures sur 24 tous ensemble. Non. Mais comment pouvons-nous nous consoler les uns les autres si on ne passe pas un minimum de temps les uns avec les autres? Je sais qu'il y a pour certains des impératifs, une force à partir rapidement après le culte, après une réunion, et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Ces raisons-là peuvent être tout à fait compréhensibles. Mais songez quand même que ces liens doivent être cultivés. Comment puis-je avoir un même sentiment avec mon frère ou avec ma sœur si je ne sais pas quel est son sentiment? Si je ne passe pas suffisamment de temps avec lui ou avec elle pour en parler? Ce sont des choses que je ne pourrai jamais vivre si je ne passe pas du temps, un contact relativement prolongé avec des chrétiens. C'est un véritable défi de vivre en église. C'est pas toujours facile de vivre en couple. Mais disons que l'avantage du couple, c'est qu'en général, on a choisi son conjoint. On n'a pas choisi les frères et les sœurs qui nous entourent. Donc c'est un véritable défi de vivre unis, soudés. Soyez un comme je suis un. Jusqu'à avoir une même pensée. Ça va tellement loin. La dernière chose que je voudrais relever de ce passage, c'est qu'il est écrit que si nous mettons en pratique ces recommandations, le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Je voudrais prendre les choses à l'envers. Si ces choses ne sont pas là, nous ne pouvons pas prétendre que le Dieu d'amour et de paix soit au milieu de nous. Parce que Dieu ne se plaît pas à bénir une église où il n'y a pas l'amour du Seigneur. Dieu ne peut pas mettre son approbation sur ce qu'il désapprouve. C'est inévitable qu'il y ait des frictions, ou disons presque inévitable. On est tous tellement différents. Il y a une chose qui nous unit, c'est le Seigneur Jésus. Et vous savez, quand on arrive le dimanche matin, vous allez rencontrer une personne qui n'est pas dans un bon jour. Vous allez rencontrer une personne qui a passé une mauvaise nuit. Vous allez en rencontrer qui sont peut-être pleins de bonnes intentions, mais qui sont très maladroits. Vous allez en rencontrer des personnes qui ont tellement peur d'être jugées qu'à la moindre parole, ils vont réagir avec agressivité ou avec dureté. Et puis, dans cette assemblée, il y a des Français, il y a des Vietnamiens, il y a des Camerounais, il y a des Congolais, j'en passe, il y en a. Des nationalités, des cultures différentes, qui sont peut-être autant de raisons d'avoir des frictions ou autant de raisons de nous enrichir aussi les uns les autres. Mais il y aura des frictions. Et je voudrais terminer avec ce verset du livre des Proverbes, chapitre 10 et verset 12. Je cite juste la fin du verset. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Veillons dans l'attente du Seigneur, veillons à ce que nous soyons en Église comme il le souhaite jusqu'à sa venue. On va prier.